n'était pas forcément prévu parce que nous sommes sur la route des vacances. Hier soir, j'ai voulu quand même appeler votre pasteur pour savoir si nous étions dans les mêmes consignes que sur Martigues. Et de là, il a eu la gentillesse de me proposer d'ouvrir, enfin de vous apporter la parole. Et c'est pas, comment dirais-je, c'est avec joie. Et ce n'est pas avec peine qu'on peut apporter la parole, même si on est en vacances, parce que, en plus, quand on prêche dans une autre assemblée, eh bien, ça fait du bien. Hein ? Voilà. Alors, j'aimerais voir avec vous ce matin, donc, ça m'est venu ce matin en lisant la parole, et vous l'avez fait aussi, hein, à la maison. Et j'ai lu ce passage, et j'ai été interpellé par ce que j'ai lu, et j'aimerais vous le partager. On parle souvent de fardeau et en fait, je voudrais savoir à quelle heure on finit d'habitude, sans plaisanterie, hein, je ne veux pas qu'on me dise à 3h, 14h. Oui, on va essayer d'aller, voilà, comme dirait l'autre, pourquoi tu tousses ton ton. Voilà, on parle souvent de fardeau, mais en fait, les fardeaux sont tous relatifs, quoi, hein. Puis ça dépend de notre sensibilité, ça dépend de notre tempérament. Vous êtes peut-être venu ce matin, et au dernier moment, vous avez bu une tasse de café, vous avez fait une tache sur votre chemise. Pour vous, ça a pris des proportions pas possibles. Vous dites, mince, je mets la main comme ça, ça m'ennuie, je suis embêté. Bon, c'est pas bien grave, hein. Enfin, c'est même pas du tout grave d'ailleurs. Mais pour vous, peut-être. Voilà, parce que c'est votre dignité, ceci, cela, enfin, tout ce qu'on veut. Mais il y a des fardeaux qui nous conduisent ou qui nous taraudent au point qu'ils nous conduisent vers une mort certaine. Et même si on connaît Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est important de vraiment apporter ces fardeaux. Sinon, ce sont des fardeaux qui vous tueront. À petit feu. Pour certains. À petit feu. Mais à petit feu, et vous savez que quand on meurt à petit feu, c'est terrible. Il y a beaucoup de souffrance et derrière, beaucoup de larmes, beaucoup de points d'interrogation. Alors, on ouvre tout de suite la Bible. Dans 1 Samuel, chapitre 22, pour mettre le texte dans son contexte, donc c'est... chapitre 21, 1 Samuel 21, pour mettre le texte dans son contexte, c'est David qui fuit Saül et qui, certainement qu'il est dans une incompréhension les plus totales, puisque celui-ci, David, avait reçu cette onction de la part de Samuel qui est venu, enfin de la part de Dieu via Samuel. Et vous vous souvenez que, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais Saül s'est mal comporté, il ne s'est pas comporté comme il aurait dû, et il y aurait tellement de choses à dire sur lui. Mais rappelez-vous ce que Samuel était oint avec une fiole d'huile, et parce que le peuple voulait faire comme tous les autres, il voulait un roi. Donc Dieu a trouvé un roi, Saül, qui dépassait tout le monde d'une tête, et on voit ici que Saül donc s'est mal comporté, n'a pas suivi ce que Dieu avait demandé via l'homme de Dieu. Et puis voilà que Dieu trouve un garçon, et du nom de David, je brûle les étapes. Et Samuel vient avec, non pas une fiole, mais avec une corne d'huile. Et il y a tellement de symboles aussi derrière. Une corne, ça nous parle du sacrifice, ça nous parle de Christ. Et l'huile qui débordait, voilà. Et il est écrit donc au chapitre 16, verset 13, « L'Esprit de l'Éternel saisit David. » Et ce verbe est important, « saisir ». Ce n'est pas « je prends, je tiens, je saisis ». Vous avez déjà fait de l'acrobranche pour les plus jeunes ou de l'escalade? Je peux vous assurer que vous ne tenez pas la corde, hein, vous la saisissez. Parce que vous avez tellement peur de glisser ou de tomber. Donc ça nous parle de force, de soutien, de maintien ferme. Donc l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et j'aime aussi, et dans la suite. Et quelle suite ? David ne savait pas que Saül serait jaloux de la grâce que David était en train de vivre. Et à plusieurs reprises, il nous a dit que Saül avait peur de David, parce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül, mais il avait vu, il savait, il connaissait la différence entre avoir l'Esprit et ne plus l'avoir. Et Saül n'avait pas peur du personnage de David par lui-même, mais il avait peur de David parce qu'il savait que Dieu était avec lui et qu'il avait cette onction sur sa vie. Et c'est la raison pour laquelle, d'une manière très charnelle, il a voulu tuer à plusieurs reprises David. Et donc, on en arrive au chapitre 21. David se rendit à Nod, parce qu'il est en train de fuir donc, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit « Pourquoi es-tu seul? N'y a-t-il personne avec toi ?» David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondait à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Et si du moins, tes gens se sont abstenus de femmes. » David répondit au sacrificateur, « Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors, le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance, une épée ?» Ou une épée, car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes, a été enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath, c'était un des princes philistins. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là, David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'ont chanté en dansant, Saül a frappé 1000 et David 10 000? David prit à cœur ces paroles. Et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. Et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Amen. Frères et sœurs, les fardeaux, encore une fois, tout est relatif bien sûr, mais comprenez que je ne parle pas d'un fardeau qui semble être léger, mais des fardeaux qui nous conduisent à petit feu à mourir. Si nous ne les réglons pas, si nous ne les apportons pas au trône de la grâce. Les fardeaux peuvent nous faire perdre raison. Même si on est quelqu'un, un frère, une sœur, un chrétien engagé, qui aime Dieu, qui a fait de merveilleuses expériences, qui a rendu un excellent témoignage, et qui peut-être même pour les uns et les autres, ne savent même pas qu'il est en train de vivre quelque chose de difficile, de terriblement difficile, d'éprouvant. Alors, il peut paraître bien devant tous les autres, frères et sœurs, en disant « c'est un bon frère, une brave sœur ». Rigolez pas, je me suis rattrapé. Moi qui voulais faire moine, vous comprenez que... Bon, enfin bon, voilà, je passe. Mais il y a des choses que l'on peut vivre, et quand on les vit qu'on est seul, alors on essaye de les régler seul, tant qu'on n'a pas réalisé qu'il fallait les apporter à Dieu. Et parfois, nous nous laissons entraîner par notre vieille nature. Et en fait, on s'aperçoit ici que David est rentré dans un mensonge. La première chose que l'on voit, c'est un mensonge. Puisque Achimélec est étonné de le voir, et il dit « Le roi m'a donné un ordre ». Il ne lui a rien dit puisqu'il est en train de fuir. Et parfois, nous essayons de nous mentir à nous-mêmes pour essayer de nous soustraire à certaines choses. Non pas qu'il voulait se soustraire à Dieu, mais... Même si ce n'est pas écrit, on peut comprendre que David était en train de se poser des questions, sans doute, on l'imagine, qu'il s'en posait. Mais pourquoi je vis de telles choses? Pourquoi je suis obligé de subir telles choses? Pourquoi j'ai reçu cette onction sur ma vie? Et vous remarquerez en relisant, chapitre 16, que Samuel ne lui a pas dit, écoute, je viens te oindre, et à partir de maintenant, Dieu est avec toi, et puis tu deviendras le futur roi. Il ne lui a pas donné un plan de carrière, hein, il est venu le oindre. Et après, voilà, les choses vont venir petit à petit. Et David se posait la question, et peut-être que ce matin vous vous êtes posé la question en vous disant, mais pourquoi je dois vivre toutes ces choses? Pourquoi je dois subir toutes ces choses qui sont difficiles en fait, et qui me tuent, qui me rongent? Je ne dors pas, je n'ai plus la paix, je n'ai pas la tranquillité, je n'ai personne vers qui aller pour essayer de te trouver un conseil, ou peut-être je ne veux même pas chercher de conseil, parce qu'en fait, j'essaie de me débrouiller tout seul, parce que je n'ai pas envie que ma vie soit répandue devant tout le monde. Ça peut arriver aussi, hein. On a notre pudeur aussi. Et David va mal s'y prendre, puisqu'il va commencer par un mensonge. Par un mensonge. Et j'aimerais ce matin vraiment avoir toute la grâce de Dieu sur sa vie. Malgré tout. Et peut-être que ce matin, vous êtes peut-être même vous-même dans un mensonge. Conscient ou inconscient. Et David va à faim. Et nous avons tous faim. Il y a des gens dans le monde entier qui ont faim de paix. À Kaboul, ils ont faim de paix. Mais à Arles, ils ont faim de paix aussi. J'en suis convaincu, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Kaboul. Il y a des gens qui fuient. Il y a des gens à Kaboul qui sont montés sur la carlingue de l'avion, sur l'aile des roues, à voir, parce que la peur nous fait faire des bêtises, pensant qu'on va tenir bon, et lorsque l'avion est en l'air, de voir des corps tomber. Mais je l'ai vu, donc ce n'est pas des ondits, hein, je l'ai vu de mes propres yeux à la télévision, et vous aussi peut-être. Mais ici, Arles, il y a des gens qui fuient aussi. Il y a plein de gens dans les hôpitaux psychiatriques. Des fois, avec un certain humour, quand on voit des gens qui conduisent mal ou quoi, on dit « ils ne sont pas tous enfermés ». Mais c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'être fou pour être mal dans sa peau. David était mal dans sa peau. Et David va à une faim. Et voilà que le sacrificateur répond à David, je n'ai pas de pain ordinaire, c'est-à-dire du pain normal, quoi. C'est du pain consacré. Et en fait, ce pain, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient prendre ce pain. Et en plus, dans le tabernacle. Et ici, le pain qui était là, c'était du pain qui était passé, il fallait le changer, le remplacer. Et Akimélec ne va pas se laisser toucher par des sentiments, par une faiblesse quelconque, ou parce que David, il est sympathique. Nous apprenons plus tard, alors que David, que Akimélec va lui donner ce pain, nous apprenons au chapitre 22, au verset 10, qu'Akimélec n'a pas fait les choses comme ça parce qu'il avait une bonne bouille, hein, David. Hein, ou parce que, vous savez, dans l'émotionnel, on est capable de faire plein de choses, et parfois même on fait des bêtises, puisqu'il est écrit au chapitre 22, verset 10, c'est quelqu'un qui rend témoignage, qui dit « Akimélec a consulté pour lui l'Éternel, il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Akimélec a demandé à Dieu l'approbation pour donner à David les pains qui étaient consacrés. C'était hors norme. Vous est-il arrivé, frères et sœurs, parfois d'être bouleversés, d'être touchés par l'amour immérité de Dieu? En fait, parfois, on est dans une profonde incompréhension, parce que si on mettait le niveau de l'amour de Dieu à notre niveau, au niveau humain, on dirait, mais jamais, enfin moi personnellement, il y a longtemps que je ne serais plus dans le mouvement, je serais même pas avec ma femme, avec mes enfants, je serais, enfin, voilà, on imagine. Et pourtant, quand on regarde dans le rétroviseur de notre vie, on se dit, mais Seigneur, c'est vraiment par grâce. Ce n'est pas le tout de le dire, c'est par grâce. Mais il faut en prendre conscience que c'est vraiment par grâce. Et que cette grâce est une grâce imméritée, bien sûr, parce que c'est une grâce. Mais son amour est un amour, nous le savons, mais parfois c'est bien de le rappeler, inconditionnel. Ça veut dire quoi, inconditionnel? Je ne vous prends pas pour des illettrés ou je ne sais quoi. Bien sûr, vous savez ce que ça veut dire. Enfin, quand même, quand on comprend, quand on prend du temps pour réfléchir à inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition pour l'amour de Dieu. En fait, Dieu vous aime aujourd'hui, alors que vous êtes dans un profond fardeau, peut-être même, je ne vous invite pas à continuer, peut-être même que vous êtes dans une forme de mensonge, ou peut-être même vous êtes tombé, et on peut être ici sans y être. Ben oui, hein, ça a été dit tout à l'heure, le pasteur il l'a dit, hein, vers le début à peu près. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais enfin, ça se rejoint. Et pour autant, comprenez que Dieu vous aime comme il vous a aimé au début de votre conversion. Mais en fait, l'amour de Dieu au début de votre conversion, c'était le même alors que même vous étiez dans les bas-fonds de la société. En fait, Dieu ne vous a pas moins aimé ni plus aimé. Dieu vous aimait lorsque vous étiez qu'une masse informe dans le ventre de votre maman. Et puis même Dieu savait qu'avant même que deux cellules ne se rencontrent, qu'un jour il y aurait, comment vous appelez frère ? Il y aurait le petit Marc, enfin qui est grandi maintenant, hein, qui aurait le petit Marc, et voilà. Comprenez ? C'est l'amour inconditionnel. Et ici, eh bien, David va avoir commencé peut-être à comprendre certaines choses. En fait, David n'était pas perdu dans l'absolu. Il était certainement dans l'incompréhension. Parce que Akimélec veut dire « mon père est roi ». Son père, à lui, il n'était pas roi, David. Mais notre Père céleste est le roi des rois. Et David avait été touché par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ça, ça avait marqué sa vie. Il a été oint à partir de ce jour jusque dans la suite. Même la suite de Bathsheba. Hein, dans la suite de sa vie. Jusqu'au dernier souffle de sa vie. Et David, eh bien, quelque part, sa lanterne n'est pas éteinte. Même s'il est rentré, comme beaucoup de gens de cette époque, dans une forme de mensonge, parce que, en fait, ce qu'il lui a fait de mentir, c'est pas parce qu'il voulait mentir pour vivre dans le mensonge, mais c'était la peur. Quelqu'un a déjà été menacé de mort ici ? Peut-être que les plus anciens parmi nous, enfin, vous n'êtes pas très très âgés, il y a des cheveux blancs, bien sûr, mais enfin, peut-être que vous étiez gosse lorsque... Il y en a, certes. Oui, il y en a, oui. Lorsque vous étiez enfant, lorsque en 40, il y avait les Allemands. Ben, les Allemands ne leur tapaient pas. Allez, Frédéric, paf, 5, allez, tape 5. Tiens, je te ramène ceci, je te ramène cela. Franz ? Non, c'était pas. Les gens, ils avaient peur des Allemands. Les Allemands, puis certains Français, hein, les milices. Voilà. Et puis de d'autres qui disaient, oh, tiens, écoute-toi, il a une tête de juif, lui. Tiens, je voulais dénoncer. Combien de mauvais coups ont été réglés comme ça, par méchanceté, par médisance. Il y avait le terrain qui m'intéressait, donc je l'ai vendu. Il s'est retrouvé à Auschwitz ou je ne sais où. Enfin, peu importe. Et les gens, ils avaient peur. Ils ont fui. Et la peur peut nous faire faire des bêtises. Ici, David, donc, va pas trouver n'importe qui, mais Akimélec, mon père est roi. Il demande à avoir du pain. Et au-delà de ce pain, c'était une réponse divine. Dieu seul sait ce dont nous avons besoin en profondeur. Ce pain a été pour lui, pour David, quelque chose qui l'a ressaisi. Il était faible. Mais au-delà de ce pain, il y avait tout un symbole, et lui, il le savait que ce n'était pas un pain ordinaire. Qui était-il pour pouvoir prendre ce pain ? Il n'était pas sacrificateur. C'était un simple homme qui était en train de fuir, il n'était pas roi encore, c'était un soldat. Et puis David va faire une révélation, ou plutôt il va déclarer quelque chose qui est parfois humiliant. David dit à Akimélec au verset 8, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée, car je n'ai rien pris avec moi, ni mon épée, ni mes armes. » Parfois on se sent désarmé. Si vous êtes arrivé de vous lever le matin après avoir déjeuné, puis peut-être fait votre toilette, de vous dire j'ai l'habitude de lire la Bible, de prier et de vous retrouver devant votre Bible, de ne pas avoir envie de la lire, de ne pas avoir envie de prier, pas parce que vous ne voulez pas, parce que vous êtes creux, vous êtes vide. Et parfois on est comme désarmé, on est taraudé dans sa tête, on n'a pas la paix, on est comme perdu. Un jour, j'avais un brave frère, enfin qui est devenu un frère, qui au début était un chrétien, pas un chrétien comme on l'entend, de religion chrétienne. Et il m'a dit comme ça, j'ai trouvé ça maintenant avec un peu d'humour, enfin pas d'humour, avec un sourire. Mais c'était tellement profond ce qu'il disait. Maintenant qu'il est converti, il me disait, je suis un chrétien perdu. Amen. T'es perdu, ben tant mieux. Ben oui, tant mieux. Il vit pas dans le déni. Il ne vit pas, je suis chrétien, oui, mais... Non, non, t'es perdu. Eh bien, tu te rends compte que tu n'as plus d'armes, que tu es désarmé, et c'est ça le commencement. Demandez à un alcoolique. Dites à un alcoolique, est-ce que tu es un alcoolique ? Si vous dites, oh, moi, je ne suis pas un alcoolique, je bois que deux bouteilles par jour. T'es un alcoolique. Non, vous me jugez? Mais un alcoolique, s'il dit comme ça, je suis un alcoolique. Alors ça, c'est le commencement du début. Non, oui, c'est bon. Tant qu'on vit dans le déni, on n'avancera jamais. Il faut reconnaître, frères et sœurs, je vous invite vraiment devant le Seigneur, pas devant tout le monde dans les réunions de prière, mais seul à seul avec le Seigneur, peut-être avec l'aide de votre pasteur, peu importe, c'est vous qui voyez. Dire, Seigneur, voilà où j'en suis. Même si ça fait 30, 40, 50 ans que vous êtes converti, ou même 6 mois, vous dites, Seigneur, voilà, j'ai l'impression que je ne sais plus où j'en suis, je suis perdu. Dites-le à Dieu. Et vous trouverez quelqu'un qui sera à vos côtés. Dieu mettra quelqu'un à vos côtés pour vous encourager. Le Saint-Esprit peut le faire tout seul, mais aussi le Saint-Esprit peut se servir d'un frère, d'une sœur, pour vous parler à travers un don spirituel, à travers une prédication, à travers un chant, à travers une visite. Ce n'est même pas la peine de lui dire « ça m'a fait du bien, tu m'as dit quelque chose ». À la limite, ne lui dites même pas. Mais prenez-le comme un cadeau venant de Dieu. Pourquoi je dis ça? Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière les faunes. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » Achimélec, en fait, il est en train de raviver le souvenir à David. « Dis donc, David, tu me dis que tu n'as pas de lance, tu n'as pas de... Mais moi ici, j'ai l'épée de Goliath. Tu te rappelles, Goliath, celui qui t'a tué, mais s'il avait bien qui s'en souvenait, c'est quand même bien David, hein ? On est bien d'accord. Et parfois, nous avons besoin de frères, de sœurs, d'un pasteur, d'un ancien qui apporte la parole ou à travers un don spirituel, peu importe. Laissons Dieu, le Saint-Esprit, agir dans notre cœur, surtout ne pas fermer notre cœur à cette parole de Dieu et ne faisons pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Soyons aussi honnêtes avec nous-mêmes. Parce que des fois, il y a des gens qui sont tentés de dire « Dieu m'a dit, Dieu ne t'a rien dit. » Frère, il faut que j'aille au Pérou. Le Seigneur a mis sur mon cœur. Non, mais ça peut... Oui, bien sûr que ça fait sourire. Seigneur a mis sur mon cœur que j'allais me marier avec un tel. Est-ce que tu es sûr? Et après, il y a des gens qui pleurent. Parce qu'en fait, ils ont prié le Seigneur juste pour se donner bonne conscience. Comme ça, si leur pasteur dit, vous avez prié? Ah ben oui, évidemment. Ça, on le dit pour le pasteur, mais c'est tellement évident que je prie. Je suis chrétien, moi. Sauf qu'ils ont déjà pris la décision dans leur tête. Donc, ils demandent pour la forme. Mais c'est déjà pris, acté dans leur tête. Il faut être honnête avec soi-même. Et si on est honnête avec soi-même, on sera honnête avec Dieu. Et si on est honnête avec Dieu, on sera honnête avec les autres. Vous vous rappelez de la femme à perte de sang? Ça m'a toujours interpellé, ça. Ça fait des années que ça m'est resté dans la tête. Au-delà du fait qu'elle a été, pendant je crois ses 12 ans, avec cette perte de sang, il est écrit qu'elle bon, a été guérie, bien sûr. Mais une chose qui est très importante, il est écrit, elle lui dit, la vérité. Alors ça, c'est fort. Dites à Dieu toute la vérité. Toute. En fait, Dieu sait tout. Mais il faut lui dire toute la vérité. Et ici, donc, Achimélec est en train de lui rappeler. Et ça a fait comme un allumage dans sa tête. Tout à l'heure, puisqu'on vient de Martigues, on est passé sur la sortie, la dynamite. Ça a été une explosion dans la tête de David. Mais bien sûr. Et regardez comment il réagit, David. Alors, Achimélec, il dit, « Car il n'y en a point d'autre ici. J'ai que ça, mon petit gars. J'ai que ça. » Et David répond, et là, il fait fonctionner toute sa mémoire. « Il n'y en a point de pareil. Donne-la-moi. » Tout le souvenir de David est ravivé dans son esprit. La parole de Dieu, de Timothée 2,8, l'apôtre Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Vous savez, on peut être converti depuis des années, mais en fait, Quand Paul dit « Souviens-toi de Jésus-Christ », il n'est pas question de renier Jésus, d'avoir oublié Jésus. Personne ne peut l'oublier. Quand on l'a rencontré, on ne peut pas l'oublier. Mais souviens-toi ce que Jésus a déjà fait dans ta vie. Rappelle-toi ce que Jésus peut faire. L'autorité qu'il a. Vous êtes malheureux ? Priez le Seigneur. C'est lui qui vous guérira. C'est lui qui vous consolera. Vous avez des doutes ? Dites-lui toute la vérité. Seigneur, je doute. En fait, David, moi, ce que j'aime dans la parole, vous savez, parfois, nous avons des frères et des sœurs. Moi, bon, Martin, ça, je ne l'ai pas vu. Monsieur, ça ne doit pas se voir non plus, parce que vous êtes tous des saints. Pourquoi vous rigolez ? Parce que j'ai dit vous étiez tous des saints. Mais moi, je suis dans la communauté des saints. À moins qu'il y ait un inconverti. Sinon, nous sommes tous des saints. Ce n'est pas parce que c'est pour vous faire plaisir que je dis ça. Je n'aurais pas vous le dire. C'est écrit. Parce que nous, on a tellement tendance à dire « Oh, moi, vous savez, je ne suis pas un saint. » Mais ça a une autre signification quand on dit ça. Sauf que la Bible dit « Je suis un saint. » T'as entendu, ma chérie ? Je suis un saint. Selon la parole. D'accord ? Mais, alors je ne sais plus pourquoi je disais ça. Des fois, j'ai des pertes de... Je perds le fil, des fois. Bon, ce n'est pas grave. Et de se rappeler, du coup, quand Paul dit à Timothée « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Se rappeler que c'est lui qui nous conduit, qui nous dirige. Et que même si Dieu ne nous envoie pas un SMS, vous savez, moi je ne connais même pas mon numéro de portable. Enfin, en fait, je ne fais pas d'efforts. Parce que je n'ai pas envie de faire d'efforts. Si j'ai besoin, si on me demande mon numéro, je regarde dans mes favoris et puis je vois mon numéro, c'est tout. C'est de la paresse, c'est tout. Mais Dieu connaît mon numéro. Et si Dieu veut m'envoyer un SMS, il me l'enverra. Si Dieu veut me parler d'une certaine façon, il me parlera. Et croyez que Dieu peut même parler à travers la technologie. Vous le savez, ça ? Je vous donne un exemple. Un jour, il y avait une brave dame qui avait été témoin de Jéhovah. Elle avait été baptisée à l'âge de 17 ans. Et puis, cette jeune femme a arrêté d'être dans la communauté des témoins de Jéhovah. Puis, elle a fait sa vie. Elle a été rejetée par la famille. Et puis, un jour, elle a rencontré Jésus dans une église comme les nôtres. Et quand elle parlait à son père, qui était responsable, un des responsables chez Témoins de Jéhovah, elle lui disait « Arrière de moi, Satanas ». Bon, vous avez compris, c'était compliqué pour elle. Mais comme elle avait été endoctrinée dans son esprit, dès qu'elle entendait parler de Dieu, il lui fallait absolument d'être certaine que ce qui était dit, ça venait de la parole. Alors, elle avait un pasteur. Ça m'a été dit. Hein, donc. Et... elle a demandé comme ça en quelques mots à Dieu, est-ce que c'est un bon pasteur ? Ben oui, non, mais enfin bon, dans le sens, est-ce que je peux lui faire confiance ? Et la télé était allumée. Et puis c'était une période où, en haut, vous savez, quand il y a SIDAction et ceci et cela, là c'était l'époque don pasteur, pour de faire des dons pour pasteur, l'Institut Pasteur. Et en haut, au lieu qu'il soit écrit « don pasteur », vous avez compris, c'était écrit « bon pasteur ». Elle avait fait venir un gosse, elle dit « qu'est-ce que tu lis ?» Parce que on laisse frotter les yeux. « Bon pasteur ». Et puis après, de l'autre côté, après qu'elle l'ait vu, ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis une erreur, ils ont changé la lettre. C'était revenu « don pasteur ». Vous voyez comme quoi Dieu, rien ne l'arrête, s'il veut. Il y a Kimélec va dire à David, il y a cette épée là. Et parfois nous pouvons encourager un frère ou une sœur sans même le savoir. Et ça peut être quelque chose de bouleversant pour celui qui l'entend, pour celui qui est en train de le vivre. Vous savez, les dons spirituels, une prédication, une prière, une visite, que Dieu te bénisse. Par exemple, ce n'est pas de la politesse, il y a un sens. Que Dieu te bénisse abondamment, richement. Ça n'a rien à voir, enfin, ça peut avoir aussi avec des finances, mais c'est pas... Moi, quand je dis que Dieu vous bénisse richement, c'est pas pour penser... Enfin, si vous avez besoin de sous, tant mieux pour vous que Dieu vous bénisse à travers ça, mais richement, visitez profondément dans votre cœur. Et Dieu va dire, David va dire, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. Est-ce que vous vous rappelez de cette parole que Dieu vous a donnée un jour ? Hébreux 4, verset 12. l'épée de la parole. Voilà. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole, combien elle vient nous toucher, nous bouleverser. Cette parole qui vient nous saisir. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Ce n'est pas de tomber dans un mensonge pour essayer de fuir votre fardeau. C'est de dire, il est là mon fardeau. Mais je veux m'appuyer non plus sur moi-même en essayant de régler les affaires comme je pourrais, ou à frapper à la porte de Pierre, Paul et Jacques, mais je veux m'appuyer sur ta parole, Seigneur. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Il y a combien de temps que vous n'êtes pas venu au Seigneur ? Oh, bien sûr, vous venez tous les jours au Seigneur, là vous y êtes. Mais pas d'une manière, traditionnelle, mais d'une manière profonde. Seigneur, je veux être visité, renouvelé, régénéré. Je termine. David donc va se lever, il s'enfuit vers Achish, parce qu'il fuit toujours. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait, on peut recevoir une parole de Dieu, mais toujours dans la démarche. Hein. Pas parce que Dieu nous a visités que tous les problèmes sont réglés. Hein. On est d'accord ? Eh oui. Et parfois, ça c'est une première chose, mais parfois Dieu peut nous parler, et puis bien entendre ce que Dieu nous dit. Il n'y en a pas de pareil, là, comme il a pu le dire, David. Mais en fait, manquer de confiance en Dieu, de manquer de foi. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens... Voilà, c'est ça que je voulais dire, je crois. Ça me revient, oui, comme quoi... Il y a des gens qui sont gentils, qui vous diront, si tu n'as pas de travail, c'est parce que tu manques de foi. Si tu es malade, c'est parce que tu manques de foi. Si tes enfants ne sont pas convertis, c'est parce que tu manques de foi. Faisons attention lorsqu'on parle comme ça. Enfin, en fait, il ne faudrait même pas parler comme ça. Parce qu'on condamne les gens. Moi, j'ai quelqu'un à l'église qui a attrapé la Covid. Bienvenue au club. Il y a des gens qui ne le croient pas. Ils disent, mais il faudrait que je remonte la preuve. J'ai dit, écoute, je ne suis pas ton père, mais moi, je vais te donner un conseil. Tu ne leur prouves rien, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de leur montrer que tu as la Covid. Tu as la Covid, un point, c'est tout. Ils te croient, tant mieux, ils ne te croient pas, c'est pas grave. Tu n'as pas à prouver, et puis quoi encore, il faut leur donner un certificat non plus médical pour dire j'ai la Covid. Hein, ils pensent qu'elle a attrapé un coup de froid. Vous savez pourquoi ? Parce que la Covid, c'est la maladie. Et puis ceux qui ont. Le Seigneur nous garde du Covid. Hein. Ah oui ? Mais c'est pas irrespectueux, ça, de penser ça comme ça ? Moi, je m'en fiche, hein, je l'ai eu, mais ce n'est pas par rapport à moi que je dis ça. Il y a combien de gens qui sont morts de la Covid ? On a perdu deux personnes à l'église de Martigues, touchées par la Covid. Et puis, le Seigneur nous garde, ça veut dire quoi ? Tu te sens supérieur aux autres, quoi. Nous, ça ne peut pas nous toucher. Ben, faisons attention, je vais vous dire. Parce que vous savez, les gens qui parlent comme ça, moi, je ne leur souhaite pas. Mais je vais vous dire une chose, franchement, je ne serais pas étonné qu'ils l'attrapent. Pour établir les choses, pour dire, tu vois, tu l'as attrapé. Alors maintenant, arrête de faire l'inquisiteur de la grâce. Parce que parfois, dans nos propos, on est tranchant, on est dur. Et en fait, on est devenu des inquisiteurs. Si tu n'as pas de travail, c'est parce que tu manques de foi. Moi, j'ai du travail, regarde. Ma femme, mes enfants sont convertis. Oui. Une fois que les portes sont fermées, c'est différent, des fois. Donc soyons sages. Et donc David prie à quelle heure tu m'as dit ? C'était 11h30, c'est ça, il faut finir ? 31, allez, 3 minutes. Pff. David prie alors. Regardez ce que Saül, qui s'y dit ça ? Les Philistins. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant ? Saül a frappé 6 000, et David ses 10 000. David prie à cœur ces paroles. Je vous invite à prendre à cœur la parole de Dieu. Ne prenons plus la parole à la légère. Quand Dieu parle à travers un don, quand Dieu parle à travers la prédication, quand Dieu parle et qu'on sent que le frère et la sœur nous parlent, sans qu'il le sache. Et je vous invite encore une fois, ça fait deux fois que je le dis, je vous invite à ne pas lui dire, pour pas qu'il se dise, ah, ça y est, ah, j'ai parlé, ah, c'est moi. Nous sommes tous fragiles. Tous fragiles. Et on est capable de croire certaines choses. Voilà. Donc, soyez prudents pour le frère. Gardez le frère ou la sœur prudente. Soyez prudents à l'égard du frère et du sœur. Paul s'est retrouvé avec une écharpe dans la chair afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager les gens. Parce qu'à force de plus encourager les gens, on a tellement peur qu'ils chutent dans l'orgueil. Mais enfin, parfois, il faut quand même veiller pour ne pas qu'ils tombent dans l'orgueil. D'accord ? Donc, David prit à cœur ces paroles. Et David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, alors, mon fardeau, vous en avez. On en a tous. Il y en a qui sont plus difficiles à vivre que d'autres. Mais apportez-les à Dieu. Rappelez-vous que cette parole, cette épée tranchante, c'est cette parole qui va vous régénérer, vous renouveler. Revenez à la source, revenez à la parole. Et les Philistins, les ennemis d'Israël, eux-mêmes avaient entendu le témoignage. N'a-t-on pas dit que Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000, et c'est ce gars qui est là? Et David a encore réagi d'une manière charnelle, il s'est fait passer pour fou. Enfin, il a pris à cœur ses paroles et Dieu l'a restauré. Votre temps n'est pas fini, frères et sœurs. Même si vous ne ressentez pas la présence de Dieu spécialement, comprenez que cette parole était pour vous ce matin peut-être. Hein ? Alors on va prier, vous voulez bien ? Peut-être qu'on peut faire un appel rapidement. Je vous invite à fermer vos yeux. Pourquoi je vous invite à fermer vos yeux ? Parce que j'insiste souvent, c'est pour la pudeur des cœurs. Le voisin n'a pas envie forcément de savoir qu'il va lever la main, que le voisin ou la voisine l'apprenne. Donc voilà, c'est du respect aussi fraternel. Et peut-être que, en effet, bien comme ça a été dit ce matin, quelqu'un est dans un fardeau profond. Et la parole, je le souhaite, je l'espère, vous a interpellé, vous a fait du bien. Et peut-être repris conscience que vous avez réagi depuis peu, à une certaine manière qui est tout à fait charnelle. Voire même, vous êtes tombé dans le péché, comme le mensonge de David. Mais ce matin, vous savez que Dieu vous tend encore la main, qu'il veut vous restaurer, vous rétablir. Y aurait-il quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui auraient besoin d'être visitées ce matin? Alors je vous invite à lever votre main. Et puis, une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la rabaisser. Hein ? Y a-t-il encore d'autres personnes qui ont besoin ? Sachez que Dieu va vous visiter. Ne vivez pas dans le déni. Hein ? Je reconnais que le fait de lever la main, ça ne change pas grand-chose aux yeux des autres. Ce n'est qu'un symbole. Mais quel symbole ? Seigneur, voilà ce que je suis, j'ai besoin. Y a-t-il encore d'autres personnes ? Voilà. On va demander à Bernard Villa. Tu veux bien prier pour les personnes qui ont levé leur main, s'il te plaît ? Gloire à Dieu.